France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Où l'on apprendra, incidemment, que l'un des frères Goncourt avait prévu la bombe atomique. Mais là ne réside pas l'intérêt du journal des frères Goncourt, et là n'était pas le problème du moment, l'immédiate après-guerre, mais bien plutôt, faut-il publier le journal des Goncourt, à savoir l'intégrale du journal des Goncourt, au risque de peiner, d'irriter la susceptibilité des héritiers de personnes mises en cause dans ce fameux journal. Pour éditer l'intégralité de ce journal, il fallait tout d'abord décrypter les milliers de pages parfois illisibles, puis, donc, choisir ou non de porter à la connaissance du public la partie désagréable, anecdote scandaleuse, parfois grivoise. Publier ce que l'on avait cru bon de garder secret, la volonté des morts doit être respectée. Oui, mais il y avait, à la Tribune de Paris, le 23 février 1946, sur la chaîne nationale, les pour et les contre. Et du reste, qui était propriétaire de ce journal des Goncourt ?
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour.
Une question passionne depuis longtemps le monde des lettres. Quand va-t-on publier la partie inédite du journal des Goncourt, qui constitue le plus étonnant témoignage sur la vie littéraire du XIXe siècle?
Cette question, nous l'avons inscrite à l'ordre du jour de la Tribune de Paris. Pour y répondre, Paul Guimard a réuni ce soir autour de notre micro André Billy, Roland Dorgelès, Maître Maurice Garçon, Pierre Descaves et Léo Larguier, qui va tout d'abord évoquer le climat dans lequel s'est élaboré le fameux journal des Goncourt.
Écoutez Léo Larguier.
Le fameux journal des Goncourt qui a fait couler tant d'encre, pour employer un vieux cliché, est dans la tradition du XVIIe et du XVIIIe siècle, celle des grands mémorialistes. Voici la première phrase du testament que le maréchal des lettres françaises, comme on l'appelait, écrivait en 1874. Moi, Edmond Huot de Goncourt, saint d'esprit, réfléchissant à l'ébranlement de ma santé depuis la mort de mon frère, songeant à la servitude de la mort, à l'incertitude de son heure, et de peur d'être prévenu par elle ainsi que l'a dit mon maître le duc de Saint-Simon, j'écris et signe de ma main ce présent testament. Mon maître, le duc de Saint-Simon. Monsieur de Goncourt songe à lui. Chaque soir, pour la joie des siècles à venir, Monsieur de Saint-Simon notait dans ses cahiers, avant d'ôter ses manchettes de dentelle, ses cordons de duc et père, les petits scandales de la ville et de la cour encore tout chauds. Il notait tout, sans tendresse, avec une âpreté et une vérité impitoyable. Chaque page est un tableau de maître, où l'on peut voir un gala à Versailles, une grande dame, un coquin, le roi, toute la vie de ce temps, où l'on peut surprendre dans l'intimité courtisans, favorites, altesses, prélats, maréchaux, aventuriers, tous les passants éblouissants du siècle de Louis XIV. Ce grand seigneur, que Sainte-Beuve appelait un Tacite au naturel et à bride abattue, n'était pas un écrivain, il ne songeait point à faire œuvre littéraire, mais aucun historien n'a laissé pareil monument. Aucun romancier n'est plus passionnant, plus audacieux, plus scrupuleux que ce gentilhomme qui devait mépriser les hommes de lettres. Emporté par sa verve cruelle, dédaigneux du style qu'il tenait sans doute pour un don de cuistre et de pédant, il ne se souciait pas d'écrire, et il n'est peut-être pas d'écrivain plus étonnant. Il y a une vertu dans la sincérité. Comme lui, les Goncourt en notaient chaque soir ce qu'ils avaient fait ou vu dans la journée. Est-ce que les mémoires du duc de Saint-Simon sont à la société du XVIIe siècle? Le journal l'est à la littérature et à la vie du XIXe. Les 9 volumes parus ne sont pas complets. Mais l'Académie Goncourt a décidé de publier ce qu'on avait jusqu'à présent jugé bon de garder secret. La volonté des morts doit être respectée et les vivants ont envers eux de grandes devoirs. Dans le domaine hors du monde où vont les écrivains qui l'ont mérité, après la pauvre et belle étape humaine, les poètes, les romanciers, les historiens se réjouiront et lorsque le dernier volume du journal va paraître, on verra sans doute dans le parc de ce paradis Monsieur le duc de Saint-Simon s'entretenant plus longuement avec Messieurs de Goncourt.
Hélas, cette émouvante rencontre que nous promet Léo Larguier dépend pour une bonne part des décisions que prendront les héritiers spirituels des Goncourt.
Bien que Roland Dorgelès, qui nous a promis d'assister à la discussion, ne soit pas encore arrivé, nous allons donc demander à notre collaborateur, Paul Guimard, d'ouvrir tout de suite le débat.
Il est une première question que nous allons poser tout de suite à M. André Villiers. En quoi consiste exactement ce fameux journal des Goncourt?
Eh bien, matériellement, le journal des Goncourt se présente sous deux aspects absolument différents. Il y a les 9 volumes imprimés, qui je crois d'ailleurs sont actuellement épuisés, qu'on ne trouve pas tout à fait facilement en librairie. Et puis il y a le manuscrit, qui est enfermé à la Bibliothèque nationale, dans le cabinet du conservateur des manuscrits.
Mais que vous avez vu, je crois.
Que j'ai vu, qui se présente sous l'aspect de 11 cahiers, dont 3 ou 4 sont des cahiers d'assez grand format reliés en toile grise, et les autres sont des cahiers reliés en toile cirée, des cahiers d'écolier, du format le plus ordinaire.
Alors, Villiers, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? À qui appartient le journal des Goncourt, la propriété matérielle du journal des Goncourt?
La propriété matérielle appartient à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire à l'État, mais je crois que ce serait plutôt à notre ami Maître Maurice Garçon de vous répondre sur ce point.
Eh bien, le journal des Goncourt, en réalité, fait l'objet d'une contestation juridique assez grave, mais qui paraît aujourd'hui tout à fait aplanie. Lorsque Goncourt, par son testament, disposa de ses manuscrits, il déclara qu'il serait pendant 20 ans déposé chez Duplan notaire pour être ensuite remis au département des manuscrits de la Nationale, où il pourrait être, au bout de 20 ans, consulté et livré à l'impression. Au bout de 20 ans, un commun accord entre la Nationale, le ministre de l'Instruction publique et l'Académie Goncourt, a fait qu'on a différé la publication. Cette publication a été différée à diverses reprises. Aujourd'hui, la question semble tranchée. La propriété du manuscrit lui-même, c'est la propriété de l'État, puisque les manuscrits appartiennent à la Nationale et sont entrés par conséquent dans le domaine public. Mais comme les Goncourt, d'autre part, ont, en fondant leur académie, déclaré que tous les droits d'auteur provenant de leurs œuvres appartiendraient à l'Académie Goncourt, on en doit conclure que l'Académie Goncourt est usufruitière, alors que la Nationale, c'est-à-dire l'État, est nue propriétaire. En la circonstance, la propriété matérielle du manuscrit appartient à l'État, et les revenus, c'est-à-dire ce qui résulte de la publication, appartiennent aux Goncourt, si bien qu'on peut dire que les Goncourt sont maîtres et seul maître de la publication.
Et c'est par conséquent au Goncourt que nous demandons s'ils ont l'intention de publier ce journal et quand.
Je demande à placer un petit mot.
Oui, je vous en prie.
Maurice Garçon vient de nous parler d'usufruit. L'usufruit comporte une limitation dans la durée. N'est-ce pas? Par conséquent, l'Académie Goncourt n'est usufruitière que pour un certain nombre d'années.
Je ne crois pas. La question est assez délicate. Le régime des œuvres posthumes est en effet très particulier. Jamais une œuvre posthume ne tombe dans le domaine public en même temps que les autres œuvres de l'auteur, et le domaine public ne commence à jouer que 10 ans après la mort du propriétaire du manuscrit qui a publié l'œuvre posthume. Si par conséquent l'Académie Goncourt publie séparément toute la partie inédite, elle reste propriétaire de cette œuvre, même après que le reste de l'Académie de l'œuvre de Goncourt sera tombé dans le domaine public. Et elle restera propriétaire pour toute la durée de l'Académie et 10 ans après sa dissolution. Si au contraire, les Goncourt publient la partie inédite en même temps que la partie déjà parue, la partie inédite tombera dans le domaine public en même temps que toute l'œuvre de Goncourt déjà parue. En réalité, je crois que la question se posera pour l'Académie de savoir si elle veut faire une publication à part de l'œuvre inédite ou si au contraire elle fondera l'œuvre inédite dans l'ensemble déjà parue.
Bon, mais alors, où en sont les choses exactement actuellement ?
Eh bien, les choses en sont au point que, à ce point-ci. On est en train de photographier le manuscrit du journal des Goncourt pour la commodité de la publication, de l'établissement du texte.
Et d'abord, est-ce que la publication soulève des problèmes matériels compliqués ?
Oui, parce que c'est considérable comme manuscrit. Ça présente plusieurs milliers de pages, n'est-ce pas, qui ne sont pas toujours très lisibles. L'écriture, surtout de Jules de Goncourt, est assez mauvaise. Ce sont des pattes de mouche. L'écriture de son aîné Edmond est meilleure. Mais enfin, c'est tout de même un travail de chartiste, de spécialiste, n'est-ce pas, dont aucun membre de l'équipe de Goncourt n'a voulu prendre la responsabilité.
Oui, mais est-ce que tout de même, on peut fixer dans le temps l'époque de la publication ?
Nous espérons pas faire paraître le premier volume cette année-ci, au moment du cinquantenaire d'Edmond de Goncourt, qui tombe cet été, au mois de juillet. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'éditeur, ça dépend du marchand de papier, ça dépend des imprimeurs, ça dépend d'un tas de considérations.
D'autant plus, si je crois les renseignements exacts...
Vous permettez que j'indique que c'est M. Pierre Descaves qui prend part au débat en ce moment.
Si les renseignements que vous me donniez tout à l'heure sont exacts, il est bien évident que la publication de la partie désagréable, c'est-à-dire la partie inédite des mémoires des Goncourt, sera incorporée au texte qui existe déjà. Par conséquent, ça risque de demander des délais extrêmement longs, étant donné que vous nous indiquiez tout à l'heure très justement que 9 volumes existent déjà, et que par conséquent, ça va augmenter sur 2 ou 3 volumes supplémentaires, par conséquent, le volume proprement dit de l'œuvre posthume des Goncourt.
Il est probable en effet que le journal, au lieu de comporter 9 volumes, en comportera 12 ou 13, étant donné surtout qu'il y aura des notes biographiques, des notes documentaires, des variantes, enfin tout l'appareil d'une édition critique.
Mais on envisage bien de publier intégralement toute cette partie désagréable dont parlait Pierre Descaves tout à l'heure.
L'Académie Goncourt est absolument résolue, oui. Sous réserve, je vais immédiatement provoquer le sourire de Pierre Descaves par l'expression « sous réserve », mais enfin, il est évident qu'il y aura des parties sur lesquelles il y aura lieu de réfléchir un peu avant de livrer intégralement au public.
Qu'en pensez-vous, Pierre Descaves ?
Eh bien, mon cher André Billy, vous avez bien voulu me dire que j'étais venu ici pour représenter un peu l'opinion moyenne littéraire.
Exactement.
Permettez-moi de vous dire que cette opinion moyenne littéraire s'est effarouchée depuis fort longtemps, et vous y avez fait écho vous-même jadis dans l'œuvre et dans Candide, s'est effarouchée du fait qu'on tenait sous le boisseau une vérité désagréable à laquelle les Goncourt avaient assigné eux-mêmes un délai prescriptif de 20 années. Alors depuis 1916, en somme, nous attendons avec impatience cette partie désagréable, et nous ne comprendrions pas très bien que certains passages ne soient pas maquillés, le mot m'échappe, mais je ne voulais pas le dire, enfin, soient altérés, qu'on y mette des initiales, etc. Car je me permets de vous faire remarquer que le journal des Goncourt, comme le rappelait très bien tout à l'heure notre bon maître Léo Larguier, a été commencé en 1851, et que dans quelques années, il y aura 100 ans que certaines personnes ont été mises en cause. Je ne vois pas très bien comment on pourrait jouer la susceptibilité des ayants droit.
C'est évidemment une question d'espèce, une question... Chaque cas devrait être... Chaque mot, chaque patronyme, on peut dire, chaque nom.
Il y a des gens qui qu'il y a les héritiers, n'est-ce pas ? Qu'il y a les descendants, et que... Enfin
êtes-vous partisan, vous,
Je crois que l'idée est de moi, à table.
Par conséquent, vous voulez que toute cette partie désagréable soit publiée intégralement ?
Je crois que ce qui aurait été... on a dit un scandale, le mot est très gros, n'est-ce pas, il y a 20 ans, à présent, n'est-ce pas.
Et est-ce que du point de vue juridique, ça peut soulever des difficultés, maître Maurice Garçon ?
Ah, il peut y avoir des susceptibilités d'héritiers légitimes, mais ce sont des questions d'espèce, pas autre chose. Il faut voir si les héritiers peuvent moralement se trouver lésés, et s'ils peuvent trouver là le fondement d'une demande en dommages et intérêts ou d'une interdiction, ce sont des cas d'espèce. Chaque patronyme, comme disait très bien Drébilly, doit être examiné séparément.
Mais alors, si vous voulez me permettre, nous serions heureux, Monsieur Pierre Descartes, que vous puissiez nous faire connaître l'avis de votre père sur la question.
Eh bien, je consens très volontiers être le porte-voix de mon vieux papa, qui, comme vous le savez, habite à Senonte en Eure-et-Loire, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais enfin, je lui ai téléphoné hier, et il m'a dit que je pouvais faire état d'un article récent qu'il a publié, dans lequel, d'ailleurs, il évoquait l'opinion de Gustave Geffroy. Gustave Geffroy, lui, avant-guerre, était partisan de la non-publication. Parce qu'évidemment, il avait vécu dans cette génération, il était assez influencé par Léon Daudet, qui, comme vous le savez, a été un des plus rudes opposants à la publication du journal. Et Geffroy disait, le devoir des héritiers des Goncourt est d'étendre sur la partie du journal qui reste à publier, c'est-à-dire sur la partie désagréable, le manteau de Noé. Et mon père dit, je ne partage pas absolument cette manière de voir, la jugeant à la fois irrespectueuse et trop sévère. J'admets plutôt une révision sans parti pris, qui peut autoriser à faire disparaître, à bon escient, ce qui serait susceptible de nuire à la réputation d'un galant homme comme Edmond de Goncourt. Personnellement, je vous dirais que pour une fois, mon père n'a peut-être pas tout à fait raison, selon une formule un peu usagée. Moi, je suis partisan, comme mon bon maître Léo Larguier, de la publication intégrale. J'estime que ce que le journal des Goncourt doit apporter comme élément aux chercheurs, aux lettrés, comme élément de découverte, compensera très largement toute la petite partie, évidemment, quelquefois un peu scandaleuse, les anecdotes un peu grivoises qui, paraît-il, sont signalées dans le journal des Goncourt. Vous vous rappelez, mon cher Billy, que nous avons dîné un jour avec un ministre de l'Instruction publique qui avait fait examiner les textes désagréables par un de ses collaborateurs, et celui-ci nous a évidemment cité quelques parties un petit peu scabreuses. Mais enfin, jetons le manteau de Noé, alors uniquement sur quelques mots, sur quelques épithètes, mais je crois qu'il serait désagréable pour la vérité littéraire et historique qu'on supprimât précisément des éléments d'appréciation importants en faisant disparaître certains noms. À moins, évidemment, comme le dit maître Maurice Garçon, que ça vous expose, vous, Académie Goncourt, à subir des procès en diffamation qui engageraient des frais, des dépenses et votre réputation.
Ah, c'est ici.
Bonjour, monsieur Roland Angelès. Voilà, monsieur Roland Angelès qui arrive. Nous allons pouvoir, malgré tout, lui demander son avis in extremis.
Bonjour, André. Bonjour, mon bon Larguier.
Asseyez-vous, Garçon.
Je regrette d'arriver si tard, mais j'ai la meilleure des excuses. Je relisais le journal des Goncourt. Pas encore la partie inédite, mais ça viendra. On est tellement pris, vous le savez, quand on ouvre au hasard un des 9 volumes, qu'on ne peut plus s'en arracher. Toute la fin du 19e siècle y revit. Tous ces grands personnages y défilent. On a l'impression d'être reçu chez la princesse Mathilde ou invité au dîner Magny, et d'entendre parler Renan, Théophile Gautier, Georges Sand, les Dumas, Flaubert, Gambetta, Taine, Sainte-Beuve, Zola, Daudet et tant d'autres. L'oreille attentive du vieux maître a tout entendu, et sa plume magique nous rend la vérité jusque dans son accent. Cas, je crois, unique dans l'histoire littéraire, pour les 45 années de mémoire publiées de son vivant, Edmond de Goncourt n'a pas enregistré un seul démenti. Et lorsque Renan protesta pour des propos vieux de 20 ans qui lui étaient prêtés, il ne trouva pas un seul témoin de l'incident pour le soutenir. Ce que rapporte Goncourt, c'est l'histoire même prise à ses sources. Quand on a parlé de publier enfin la partie inédite de ce prodigieux journal, certains ont exprimé des craintes. On a dit que les descendants de personnes mises en cause prendraient la mouche et nous intenteraient des procès. Je n'en crois rien. Depuis ce temps heureux de querelles boulevardières, nous avons vu couler sur les uns et les autres de tels torrents d'insultes que nos sensibilités se sont endurcies. Et les remarques incisives d'un gentilhomme des lettres n'ont jamais sali ceux qu'elles touchent. Qu'importe après tout la cruauté des croquis et si le portrait ressemblant. On a dit également que l'aîné des Goncourt, dans ces dernières années, prêtait une oreille trop complaisante aux anecdotes pimentées que lui rapportaient de jeunes écrivains comme Octave Mirbeau, Jean Lorrain, Robert de Montesquieu, qui ne passaient pas précisément pour de bonnes langues. Mais on a oublié que ceux-ci avaient leurs entrées dans le monde politique, le monde des théâtres et des lettres, le monde des sciences, le grand monde tout court, et qu'ils étaient, pour l'ermite du boulevard Montmorency, les plus précieux des informateurs. Ils ne lui rapportent pas des papotages à la guimauve, tant mieux pour nous, qui pourrons bientôt pénétrer avec eux dans les salons les plus fermés de l'époque. Pour ma part, je suis bien décidé, quand je relirai le manuscrit inédit, de ne rien retrancher.
Eh bien, nous en prenons bonne note. Mais vous nous disiez, monsieur d'Orgelès, que ce journal avait gardé, après 50 ans, tout son intérêt.
Mais oui, comme toutes les grandes œuvres, il échappe au temps. Tenez, je vais vous donner, pour finir, une preuve surprenante de son actualité. Goncourt, dans son journal, a même prévu la bombe atomique.
Oh non, c'est pas possible.
Vous allez voir. Laissez-moi retrouver la page. Voyons. Je sais qu'à la radiodiffusion, il est dangereux de parler de bombe atomique, mais je vais m'y risquer.
Je vous en prie.
Voilà. Le 7 avril 1869, vous entendez bien, 69, il y a près de 80 ans, Goncourt, rendant compte d'un dîner manie, écrivait « Berthelot avait prédit que dans 100 ans de sciences physiques et chimiques, l'homme saurait ce que c'est que l'atome, et qu'avec cette science, il pourrait à son gré modérer, éteindre, ranimer le soleil comme une lampe. »
C'est en effet surprenant.
Et Goncourt ajoutait avec philosophie « Nous croyons bien qu'à ce moment-là de la science, le vieux bon Dieu à barbe blanche arrivera sur la terre avec son trousseau de clés et dira à l'humanité, ainsi qu'on dit au salon à 5 heures, « Messieurs, on ferme !»
André Billy, Roland Dorgelès, Maître Maurice Garçon, Pierre Descaves et Léo Larguier ont répondu ce soir à la question
« Faut-il publier le journal des Goncourt ?»
Notre émission est terminée.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 23 février 1946.